RFI.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum les amis. Déforestation, inondation, désertification. À une vitesse implacable, l'environnement se dégrade. Le constat des experts onusiens est glaçant. Jusqu'à 40% des terres émergées sont endommagées et la moitié de l'humanité en souffre. Conséquences directes, raréfaction des ressources, famine, malnutrition ou encore des déplacements de populations qui touchent des millions de personnes, dont les populations du Sahel. Êtes-vous impliqué dans des initiatives pour protéger votre environnement? Que font les jeunes pour lutter contre les effets du changement climatique? Alors on dit quoi? Vous donne les réponses. Ndiakhène, c'est parti.
Alors on dit quoi? Djaranjaï.
Et pour m'accompagner, bien sûr, tout au long de cette émission, eh bien, il y a deux jeunes activistes, des femmes engagées, à l'instar de Sarah Toumi, responsable de programme au sein de la Convention des Nations Unies contre la désertification. Elle a également fondé Acacia for All et est ex-membre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Bonjour Sarah.
Bonjour Diara.
Autre invitée en ligne, cette fois, Indou Oumarou Ibrahim, géographe, militante autochtone de la communauté Mbororo pour le climat et coordinatrice de l'AFPAT, c'est l'association des femmes peules et autochtones du Tchad. Indou participe également aux négociations internationales sur le climat. Bonjour Indou, merci infiniment d'être au téléphone avec nous.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous en ligne.
Un plaisir partagé Indou. Merci, merci infiniment Indou. Vous êtes tchadienne justement et le changement climatique dont on parle beaucoup, vous le subissez de plein fouet au Tchad. Pour vous, j'imagine qu'il est urgent d'agir.
Absolument. Nous sommes les victimes du changement climatique en première ligne. Déjà, nous avons la désertification, les déserts qui avancent 4 km tous les ans. Mm-hmm. Et nous avons aussi les changements de saison avec la rareté des pluies ou bien les inondations qui aussi inondent toute l'agriculture et qui créent l'insécurité alimentaire. Et là, ça crée aussi les conflits intercommunautaires, ainsi que les déplacements des populations à l'interne. Donc, c'est l'urgence, raison pour laquelle on a besoin des actions et des actions de tout le monde, ainsi que des jeunes qui ont beaucoup d'innovations qu'on va écouter dans cette émission.
Indou, rappelez-nous justement pourquoi vous, en tant que jeune tchadienne, vous vous engagez et vous sillonnez le monde pour parler et faire agir le reste de la population.
Alors, pour moi, ce n'est pas une passion, ce n'est pas un travail, mais c'est la survie de ma communauté, dont je viens d'un peuple nomade et semi-nomade qui dépend de l'environnement. Si la pluie vient, ça veut dire que nos vaches peuvent brouter de l'herbe et peuvent produire aussi du lait et nous pouvons aussi manger et boire. Et du coup, si cet environnement est impacté, ça veut dire que notre mode de vie est impacté. Mmh. Et raison pour laquelle, pour moi, agir n'est pas une demande, c'est un devoir, c'est une survie et je dois le faire absolument.
Sarah, pour vous aussi, finalement, c'est une mission, cet activisme que vous menez autour de la protection de l'environnement?
Oui, tout à fait. Moi, je suis franco-tunisienne et donc de l'autre côté du Sahara, un peu plus au nord que Indou, ma famille subit les conséquences du changement climatique et de la désertification, puisqu'ils sont agriculteurs depuis des centaines d'années et qu'aujourd'hui, on voit les récoltes diminuer à cause de la sécheresse et de l'augmentation des températures. Donc, en effet, c'est plus qu'un engagement, c'est une mission pour préserver nos modes de vie.
Sarah, très jeune, vous avez eu le sentiment que la protection de l'environnement était plus qu'un enjeu de taille. Expliquez-nous ce qui vous a motivé.
Au départ, c'est parti d'une histoire très simple. Moi, je suis née à Paris. Mmh. Ma mère est bretonne et mon père est tunisien. Et j'ai découvert le village de mes grands-parents à l'âge de 9 ans. Et donc, c'est un village où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et surtout, avec un mode de vie très rude, les gens sont très, très affectés par le climat. Et en l'occurrence, j'ai découvert aussi le problème de l'accès à l'eau. Mm-hmm. Les femmes qui doivent aller chercher l'eau chaque jour pour qu'on puisse manger, prendre une douche. Et ça m'a vraiment choquée. Et ça m'a donné envie, du coup, dès cet âge-là,
d'agir. Dès 2008, vous fondez The Dream, c'est ça? Un réseau d'échanges, d'actions? C'était quoi exactement?
Déjà à la Sorbonne, en tant qu'étudiante, donc j'ai créé un incubateur de projets sociaux et environnementaux qui a accompagné plus de 60 projets pendant 4 ans. Et ensuite, donc juste après mon master, je suis partie en Tunisie, lancer Acacias for All, donc une entreprise sociale qui monte des filières agroécologiques dans les zones arides avec des femmes. Et on a monté 5 filières agroécologiques, donc du moringa, de l'huile essentielle de néroli, de l'huile d'olive, des dattes, qui fait vivre aujourd'hui un peu plus de 500 femmes.
On va revenir plus en précision sur ce beau projet qui est Acacias for All. Peut-être juste avant, on va parler du pays d'Indou. On va prendre la direction du Tchad, où de nombreux jeunes sensibilisent à cette question de la protection de l'environnement. On écoute ensemble ce reportage et on revient.
Dans une salle remplie d'élèves disposés à l'écouter, Kadia, élève en classe de seconde scientifique, s'apprête à faire une présentation de 10 minutes sur l'importance de la protection de l'environnement. Elle fait partie d'un club scolaire très engagé dans la protection de l'environnement au Tchad. Que fait concrètement ce club?
Notre rôle à l'école, c'est de sensibiliser nos jeunes camarades sur la gestion de notre environnement. Face aux nombreux fléaux que rencontre l'environnement maintenant, comme la pollution, la dégradation et autres. Pas seulement de les sensibiliser, mais nous mettre nous-mêmes en action afin de lutter contre l'avancée du désert, la dégradation et la pollution.
Pourquoi miser sur les enfants pour assurer la protection de l'environnement? Explication de Fadel, formateur à l'ONG Espace Vert du Sahel.
Ok, pour nous, on pense que c'est également une des meilleures stratégies. Puisque un enfant sensibilise les grandes personnes, comme vous avez dit tout à l'heure, lors de la restitution, c'est que les enfants ont eu à présenter. Et ça veut dire que les grandes personnes sont très sensibles, attentives à ce que sur les enfants, ils produisent comme conseil, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a adopté la méthode en formant les enfants. Et ces enfants-là, ils deviennent des formateurs endogènes qui, à leur tour maintenant, ils forment d'autres enfants et ils sensibilisent également leurs parents, ils sensibilisent tout leur entourage également.
Pays du Sahel, le Tchad est dangereusement menacé par l'avancée du désert et la sécheresse. Conséquence, risque très élevé de la famine et température insupportable. Victime de cette situation, Laetitia pense que la protection de l'environnement doit être une urgence.
Je pense que la protection de l'environnement est une urgence parce que l'environnement nous donne beaucoup plus que l'homme s'imagine. Et aujourd'hui, avec la pollution de l'eau, de l'environnement, de tout ce qui est biochimie et tout ça, nous contribuons énormément à détruire notre environnement. Et ça doit être une priorité parce que c'est de cet environnement-là qu'on a l'oxygène, on a la nourriture, on a l'eau.
Protéger l'environnement, d'accord, mais il faut d'abord chercher à mettre fin à l'injustice sociale, ce qui aura un impact positif sur l'environnement, selon Sabre.
Et puis, si partout les gens crient qu'il faut protéger l'environnement, ce sont les pollueurs qui commencent à crier. Il faut protéger les gens. Mais ceux qui n'arrivent pas à vivre, à manger à leur faim, comment on peut leur passer la parole à l'oreille? Protéger l'environnement, au moins se protéger soi-même est un problème. Il faudrait que la personne arrive à se protéger elle-même en trouvant de quoi mettre sous la dent avant d'espérer protéger autre chose. Donc l'urgence, c'est que la personne arrive à manger à sa faim.
Malgré ses regards pessimistes de Sabre, Kadia, l'une des élèves experts de l'ONG Espace Vert du Sahel, propose quand même des solutions simples pour pouvoir protéger son environnement.
Puisque ces problèmes sont liés d'abord à la mauvaise gestion de l'eau, je dirais que la seule solution qu'on peut faire maintenant, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. C'est d'entretenir nos eaux. Même s'ils sont sales, on doit les traiter afin de boire lorsqu'il y a carence d'eau. Et on ne doit pas gaspiller de l'eau du moment où on a encore de l'eau. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est d'entretenir nos eaux, de les traiter pour les rendre buvables et utilisables.
Au Tchad, l'inondation qui apparaît clairement comme l'une des conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement a touché 20 provinces, soit 388 000 personnes en 2020, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Au-delà des discours politiques, la protection de l'environnement doit être un impératif pour tous car l'avenir de la planète Terre et celle des futures générations en dépend.
Merci Junior pour ce reportage. Hindou, nous étions chez vous au Tchad. Est-ce que les réels enjeux pour le Sahel ressortent bien dans ce reportage de notre correspondant? Que faut-il retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous Hindou?
Bah oui, je pense que tout ce que les jeunes ont dit là, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Et surtout, j'essaie de donner l'exemple du lac Tchad qui a asséché quand même de 90% de ses eaux juste une génération. En fait, quand ma mère était jeune, le lac était déjà de 25 000 km². Mm-hmm. Et quand moi j'étais née, il était 10 000. Et actuellement, je suis à mon âge là, il est à 2000, 3000, dépendant des saisons de pluie. Donc, ils ont bien décrit la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et sur l'avancée du désert, ils ont dit la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, ça crée l'insécurité alimentaire et devient d'acté aussi. Moi, ce qui m'a marqué aussi, les gens ne sont pas restés les bras croisés. Mm-hmm. Donc, les gens sont en train de se battre pour protéger cet environnement, pour restaurer les écosystèmes, pour aussi avoir les savoirs locaux qui sont là, parce que ce n'est pas seulement la technologie et la science qui peut nous aider, car c'est loin des populations pour le moment.
Et d'où vous avez le sentiment que les jeunes sont davantage impliqués, vous qui êtes activiste depuis un moment, vous avez le sentiment qu'ils sont en alerte sur ces questions de sensibilisation et de protection de l'environnement?
Absolument. Je vois les jeunes de plus en plus s'engager dans la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Et même ceux qui sont dans le développement, ils ont le volet changement climatique ou protection de l'environnement qui est toujours dans leur agenda. Mmh. Et les jeunes se rendent compte aussi leur futur est dans cet environnement et s'il n'est pas protégé, donc c'est leur futur qui est en jeu. Mmh. Alors, il y a plus des actions. Si je prends il y a 20 ans, quand moi j'avais créé mon organisation, il n'y avait pas la lutte contre le changement climatique. Il y avait des organisations peut-être pour les droits de l'homme ou bien pour l'éducation, la santé. Donc c'est des trucs en solo. Mais maintenant, il y a plus de trucs qui sont intégrés. Donc quand on parle de l'éducation, on parle aussi de l'éducation environnementale. Quand on parle de la santé, on parle aussi de la santé environnementale ou de la médecine traditionnelle. Quand on parle du développement, on parle de droit à la terre, de l'agro-business.
Mm-hmm. Qui aussi et de l'agroécologie dont on va parler avec Sarah dans un instant d'ailleurs.
Et bien voilà, les jeunes en parlent de tout ça de plus en plus maintenant. Mm.
Sarah, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont interpellé durant l'écoute de ce reportage?
Tout à fait, j'étais ravie d'écouter ces témoignages parce que j'ai eu la chance de faire des missions dans le cadre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et de rencontrer Laetitia et l'équipe d'Espace Vert. Oui. Et en fait, ils font partie de ces gens qui m'ont inspirée aussi pour m'engager davantage au-delà de la Tunisie. Mm-hmm. Et notamment sur la Grande Muraille Verte et donc je les remercie et je leur passe le bonjour parce qu'ils font partie de ces gens qui ont permis de faire remonter le message que des jeunes s'engagent, que la cause environnementale elle est essentielle aujourd'hui aux questions économiques et sociales pour mm-hmm. le développement de ces pays et que sans soutien politique
rien n'avance. Ouais. Vous évoquez effectivement la Muraille Verte, hein, un travail au sein de la Convention des Nations Unies contre la désertification, c'est un petit peu votre rôle. Parlez-nous davantage de ce projet. On sait qu'il est gigantesque, qu'il touche 11 pays africains. Il y a des moyens, mais est-ce que ça avance?
Alors, la Grande Muraille Verte, déjà, il faut savoir que c'est un projet africain qui a été créé par l'Union africaine qui peine à avancer depuis 15 ans. C'est pour ça que l'accélérateur de la Grande Muraille Verte a été mis en place en 2021.
Il date de 2007, Summit. Enfin officiellement de 2007. Oh. Et oui. L'idée, c'est un peu de restaurer la végétation dans le Sahel.
Au départ, l'idée, c'était de créer une ligne d'arbres de 15 km de large et 8000 km de long de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Mm-hmm. Ça a évolué parce que... À force de tester sur le terrain, c'est devenu une mosaïque d'initiatives. Et aujourd'hui, on parle d'investir dans les chaînes de valeur agroécologiques, de renforcer l'accès à l'énergie, de renforcer la stabilité, la sécurité dans la région et aussi de restaurer les terres et gérer l'eau. Donc, c'est plus seulement de la plantation d'arbres, c'est beaucoup plus vaste.
Mais qu'est-ce qui peine à faire avancer concrètement les ambitions de ce projet? Parce qu'effectivement, il a été initié donc en 2007, officiellement, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on est en 2022 et on parle de problèmes de financement, notamment. Sarah ?
Alors aujourd'hui, les problèmes de financement n'existent plus, puisque 19 milliards de dollars ont été mobilisés lors du One Planet Summit en 2021. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un problème principalement organisationnel et de gouvernance. Nous travaillons avec l'accélérateur, avec les agences nationales de la Grande Muraille Verte, l'agence panafricaine et les États, pour faire en sorte que ces agences deviennent le cœur du réacteur
de la Muraille Verte.
De la Muraille Verte et surtout du développement de ces pays, qu'ils ne soient plus à côté, mais que la Grande Muraille Verte soit une partie intégrante de la stratégie nationale de développement de ces pays.
Alors on va continuer de parler de toutes ces initiatives et des projets dans lesquels vous travaillez toutes les deux. On va en Afrique aussi voir les modèles qui se distinguent dans la lutte contre la protection de notre environnement. On va voir plusieurs initiatives. D'abord on écoute Spice, Sean Paul et Shaggy, Go Down There. She get it good from she rise, but put it on so good I make sure she call she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Come in around to make them girl roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chat and you can't keep up with me energy. Water every night, I've been embedded in your memory. Little bubble up and treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise? Just get in a deposition and boss one. Never you forget this is your mission. Be take a girl, man, you want be in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist. And we give you the steel, make you balance and grip on. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Stay down there, girl. Stay down there.
My time to wind up. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind.
And I'ma do it like. I put me through the night. I saw me do it like. One thing to tell you, man, and get me high. Go down there. Why not go down there? Go down there. Why not go down there?
Vous écoutez, alors on dit quoi aujourd'hui? Nous parlons de l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement. Je suis aux côtés de Sarah Toumi, responsable de programme au sein de la Convention des Nations Unies contre la désertification, ainsi qu'Hindou Oumarou Ibrahim, qui est entre autres militante autochtone de la communauté Bororo pour le climat et coordinatrice de l'AFPA, l'Association des femmes peules et autochtones du Tchad. Sarah, on a mentionné, évoqué tout à l'heure un petit peu avec Cassia Forol, peut-être revenir un peu sur les enjeux de cette plantation d'arbres.
Au départ, l'idée, c'était... J'avais lancé une campagne en tant qu'activiste pour planter 1 million d'arbres en Tunisie pour sensibiliser les gens et surtout les jeunes à la protection de l'environnement.
Donc de base, finalement, un projet écologique qui est finalement devenu économique.
Tout à fait, parce que je me suis vite rendu compte que dans ces zones où justement il n'y a pas d'eau et où le climat est assez hostile pour les plantes autant que pour les humains, il va falloir monter un modèle économique pour gérer ces plantations et assurer leur pérennité. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée donc de planter des arbres à monter des chaînes de valeur agroécologique. Donc l'agroécologie, c'est d'une science qui vise à augmenter les rendements tout en prenant en compte les ressources limitées de l'environnement et d'utiliser des intrants naturels, des fertilisants naturels pour faire en sorte de reconstituer un environnement qui puisse s'auto-gérer et croître. Et donc, travailler avec les femmes, ça m'a semblé tout de suite évident, parce que c'est elles, en fait, qui travaillent dans l'agriculture en Tunisie. Près de 80% de la main-d'œuvre agricole en Tunisie est féminine. Et ce sont celles qui, évidemment, bénéficient le moins des avantages économiques de ce secteur.
Et les résultats, 10 ans après, justement, la création de cette entreprise ?
Alors, 10 ans après, on a planté un peu plus de 700 000 arbres, un peu partout en Tunisie. On a monté 5 filières agroécologiques dans 3 coopératives. Un peu plus de 500 femmes mobilisées. Et en fait, donc, comme vous l'avez si bien dit, donc aujourd'hui, je travaille aux Nations Unies depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc, j'ai cédé ma place. Ça faisait partie de mes engagements aussi de départ. J'avais dit que je ferais maximum 10 ans. Et ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, elle travaille donc, avec les contrats
et
commerciaux qu'on a mis en place.
Et elle gagne des revenus à travers ce programme.
Et elle gagne des revenus. Elles entretiennent leurs plantations et elles inspirent d'autres à faire pareil.
Alors, on dit quoi ?
Alors, on va parler des initiatives maintenant sur le terrain, sur le continent. Ces initiatives sont nombreuses. On va en parler avec Ayouba Sani. Ayouba est au Niger. Il est directeur exécutif de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous connaissez, Sarah ?
Tout à fait.
Très bien. Alors, on va en parler avec Ayouba pour nous expliquer davantage les actions de JVE. Ayouba, bonjour.
Oui, bonjour.
Ayouba, merci d'être avec nous. Alors, expliquez un petit peu plus à nos auditeurs ce que font les jeunes volontaires pour l'environnement, pour aider justement le Sahel. Pourquoi est-ce urgent d'agir selon vous, Ayouba ?
Oui, il est très important d'agir parce que, surtout au Sahel, quand on regarde l'avancée du désert avec la dégradation des sols qui continue, le Niger perd à peu près 100 000 hectares par an de sols qui se dégradent. C'est très dangereux. Il y a le retour des feux de brousse, il y a les inondations qui sont de plus en plus récurrentes ici à Niamey au Niger. Et il y a également l'exacerbation des conflits liés aux ressources naturelles qui sont souvent très meurtriers. Comme l'avait dit Indou tout à l'heure, c'est une question très essentielle. Et de plus en plus, les jeunes font face à la migration parce qu'il y a une crise de l'emploi, il y a la terre qui se dégrade, donc les gens sont obligés d'émigrer. De l'autre côté aussi, vous savez que les Sahel se passent aux crises sécuritaires et tout avec les groupes extrémistes et tout. Donc, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi les jeunes vont rester l'environnement, essayer de concentrer leurs activités sur la structure de formation, sensibilisation et action. Donc, depuis la création, nous mobilisons les jeunes autour des actions de réforestation. C'est-à-dire, nous faisons des actions de restauration des terres dégradées, puis en faisant des pluies. Les jeunes, à travers les 5 chantiers de reboisement, essayent de réverdir leur territoire, leur environnement autour.
Ayouba, parmi les activités, vous mentionnez justement des plaidoyers, de la sensibilisation. Est-ce que ça porte vraiment ses fruits ? Est-ce que c'est utile ? Vous avez le sentiment que vous êtes assez entendu aujourd'hui ?
C'est très utile parce que nous pensons qu'aujourd'hui, de plus en plus de dans la protection de l'environnement à travers la création des clubs des jeunes. Mais en plus de cela, il y a, comme je l'ai dit, au niveau même des pouvoirs publics. Aujourd'hui, la plupart des politiques telles que le programme national d'adaptation, la CDN, la commission nationale déterminée, donc de plus en plus de jeunes sont engagés dans l'analyse de ces politiques, mais également dans la mise en œuvre des projets, peut-être que des projets, programmes de réverdissement, les jeunes sont associés en tant que partie prenante, au-delà d'être un simple bénéficiaire. Donc, à travers l'éducation environnementale, nous donnons les connaissances de base sur les enjeux liés à la protection de l'environnement et les jeunes deviennent des citoyens écolos au sein de leur famille, de leur communauté. Ils contribuent dans la sensibilisation parce que c'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, plus de 70% de la population nigérienne est rurale et puis elle est jeune. Et les activités dépendent de l'agriculture et de l'élevage et qui sont malheureusement impactées par cette crise climatique. Donc c'est important.
C'est très important.
Et essayer de trouver des solutions à la base.
Merci infiniment à Ayouba. Alors les Nigériens sont très actifs. Vous allez le voir avec notre prochaine auditrice, Farida Dobi, chercheur en gestion des ressources en eau et entrepreneur. Elle est nigérienne et elle est à l'Institut National Polytechnique ou Fouette-Boigny en Côte d'Ivoire. Elle va nous parler de l'apport de la recherche scientifique dans la gestion durable de l'environnement. Farida, bonjour.
Bonjour Viara.
Merci infiniment d'être avec nous. Farida, dites-nous justement, qu'est-ce que la science apporte à ce niveau, au niveau de la protection de l'environnement ? Vous avez, vous aussi, votre partition à jouer ?
très brièvement, pour faire l'historique, il faut savoir que les préoccupations environnementales étaient présentes dans les sciences sociales et naturelles depuis les années 1920. Mais c'est véritablement à partir des années 60 qu'elles se diffusent avec la sortie du fameux livre de Rachel Carson, Silent Spring, où elle dénonce fortement les impacts environnementaux de l'utilisation des pesticides. Donc depuis lors, la recherche scientifique sur l'environnement porte sur des questions très diverses et mobilise un large éventail de disciplines. Donc ça va de l'évaluation des impacts et risques environnementaux, par exemple en lien avec les changements climatiques.
Est-ce qu'il y a des domaines de recherche prioritaires, Farida ?
Bien sûr. Par exemple, on a l'impact des activités anthropiques, comme je le disais, l'agriculture, les industries, par exemple l'extraction minière, par rapport, par exemple, aux ressources en eau. Donc moi, je viens d'un pays sahélien par excellence. Au Niger, l'accès à l'eau est une problématique qui est essentielle. Mais comme vous le savez, le Niger est aussi un des premiers producteurs d'uranium au monde. Donc mes travaux de recherche portent sur l'évaluation des impacts de ces activités sur les ressources en eau.
Et quelles sont les premières conclusions justement que vous tirez en quelques mots sur ces recherches autour de l'uranium et de la ressource en eau ?
C'est qu'il faut faire la balance, parce que la production d'uranium est essentielle pour soutenir l'économie nationale, mais il faut proposer des solutions afin que les impacts sur la disponibilité des ressources en eau pour les populations locales soient le plus minime possible.
Merci infiniment Farida. Alors on va continuer à prendre nos auditeurs, ils sont nombreux et ils ont de belles initiatives à nous partager, à l'instar de Sadia Diawara qui est le président fondateur de Road Trip. L'arbre est au cœur de vos activités, ça fait sourire Sarah qui est avec moi. Bonjour Sadia.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, Sadia. Alors, en 2018, il me semble, nous vous avions déjà reçu à ce sujet, car vous plantez des arbres. Une belle initiative. Comment elle évolue, cette activité, qui d'ailleurs a été dupliquée dans plusieurs pays?
Tout à fait. Elle évolue plutôt bien. Il y a eu le Covid entre-temps.
Oui.
Et donc, du coup, on a dû nous adapter. On est passé de voyages éco-solidaires au cours desquels nous plantons des arbres dans différents pays du monde à plutôt des initiatives plus locales qui passent par les habitants. Grosso modo, nous finançons des campagnes de reboisement initiées par des habitants de différents villages d'Afrique.
Voilà. Dans quel pays, par exemple ?
Au Maroc, en Mauritanie, au Mali, en Algérie, au Tchad, au Burkina, au Sénégal, au Cameroun, enfin voilà.
Donc, oui, il y a beaucoup de pays un peu partout dans le monde, quoi. Sadia, je sais que la notion de co-développement est très importante pour ce projet Road Trip. Rappelez-nous pourquoi c'est important pour vous.
Elle est importante dans la mesure où, dans le passé, il y a eu beaucoup d'initiatives, on va dire, entre guillemets, humanitaires, et entre guillemets aussi descendantes. C'est-à-dire que les choses étaient décidées ici par notamment les Français. Et nous on prône justement une organisation qui part des besoins locaux. Et justement, en termes d'environnement, il y a des connaissances et des compétences très intéressantes qui ont été acquises et développées de la part des paysans. Et donc, nous, on part sur cette base-là. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les projets soient co-construits, que les choses soient réfléchies et pas mise en place de manière hasardeuse.
Un dernier mot peut-être sur le Road Trip Junior.
Road Trip Junior, ça fait 14 ans qu'on œuvre sur le terrain. Et je le rappelle, on n'a aucune subvention. On autofinance tous nos projets. Et l'idée, c'est de transmettre tout le savoir et savoir-faire que nous avons acquis depuis toutes ces années. Et donc, nous avons commencé à mettre en place depuis 2017 des voyages éco-solidaires, mais avec des enfants.
Super, la sensibilisation pour les plus jeunes. Merci infiniment, Sadia.
Merci à vous.
Bonne continuation. Merci. Une réaction peut-être, Sarah, autour de cette initiative. Oui, planter des arbres, ça sert à de nombreuses choses. Ça sert comme brise-vent, oui, mais ça participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique en absorbant le dioxyde de carbone.
Oui, c'est une initiative extraordinaire et... Pour moi, il fait partie de ces gens que j'appellerais les héros de la Grande Muraille Verte. Ces gens qui s'engagent au quotidien pour, malgré les défis, pour faire avancer la cause environnementale. Bravo.
Alors, on dit quoi ?
Alors, on va enchaîner avec Abdou Touré, qui, lui, est fondateur de Quartier Vert Challenge. Bonjour, Abdou.
Bonjour, Diarra.
Merci d'être avec nous, Abdou. Alors, vous, le Quartier Vert Challenge, ça consiste à sensibiliser au maintien d'un cadre de vie propre et vert. Dites-nous par quelles actions vous menez ce combat.
Alors, merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Donc, le Quartier Vert Challenge au Sénégal vise à sensibiliser les populations pour maintenir un cadre de vie propre en plantant des arbres, en faisant des clean-up, en faisant du reverdissement urbain, en mettant des fleurs dans la rue, créer un cadre de vie convivial et aussi sensibiliser les citoyens à pouvoir mieux utiliser leurs déchets, que ce soit les déchets organiques, les déchets plastiques et tous les déchets qui sont au niveau des maisons, mais en même temps d'avoir de bons comportements dans la rue, de manière globale.
Et pourquoi vous ciblez particulièrement les citadins?
Oui, vous savez, Diarra, moi j'habite à Dakar, je suis né à Dakar, j'ai vu comment Dakar a évolué en plus de 20 ans. Et maintenant, quand on survole Dakar, j'ai eu des amis qui ont un avion et qui m'ont invité à survoler Dakar. Et quand on survole Dakar, on dirait des cimetières de béton. Il n'y a pas de verdure du tout. Et aujourd'hui, que ce soit le gouvernement du Sénégal, que ce soit les promoteurs de l'immobilier, continuent à couper les arbres, à faire de l'écocide pour construire des maisons, mais sans avoir intégré le reverdissement urbain dans leur projet. Et c'est pour cela, moi, je me bats avec mes amis de la Green Factory et d'autres associations de Dakar pour pouvoir, au moins, dans nos quartiers, dans nos ruelles, maintenir mettre de la verdure et pour l'atténuation de la chaleur. Avec le ciment qu'on retrouve un peu partout à Dakar, il est très chaud, il fait très chaud, énormément chaud de vivre dans les quartiers dakarois.
Merci infiniment Abdou Touré. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Quartier Vert Challenge. Et on reste au Sénégal avec Mahamadou Baldé, qui est fondateur du Média Vive Afrique, un site d'information sur les ODD, les Objectifs de Développement Durable en Afrique. Nous avons déjà parlé de ces ODD dans une émission, alors on dit quoi? Bonjour Mahamadou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, environnement, climat, agriculture, énergie, tout y est. Quelle est l'actualité justement concernant l'environnement que vous aimeriez citer ici dans Alors on dit quoi, Mahamadou?
Les actualités sur l'environnement, il y en a beaucoup. Il faut dire que de plus en plus avec le réchauffement climatique, il faut savoir que les problèmes sont multipliés à tous les niveaux. Par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, on parle de dessalement de l'eau. Le dessalement de l'eau signifie simplement que dans les pays sahéliens comme le nôtre, on trouve déjà de ne pas avoir de l'eau d'ici quelques années. Et donc, on s'intéresse beaucoup à des innovations comme essayer de l'eau salée, la rendre plus, la rendre potable, déjà pour l'agriculture. Ceci est une conséquence directe du réchauffement climatique, donc avec la montée des eaux, qui, j'avais dit, est plus basse que les eaux qui pénètrent les terres. Donc, avec l'élévation du niveau des mers, on a trouvé des phénomènes qui sont devenus plus dangereux. Et donc, les cours d'eau, les analyses des cours d'eau d'eau douce, composés d'eau douce, sont en train de devenir des cours d'eau salés avec un impact assez considérable.
Mahamadou, si vous aviez un message à faire passer, quel serait ce message, Mahamadou, aujourd'hui?
Le message, c'est plutôt celui de porter l'éveil des consciences sur le développement durable. D'accentuer l'engagement de tout un chacun sur les phénomènes qui sont en train de changer les paradigmes économiques de tous les pays du monde à la fois. Porter une attention quand même assez particulière sur le phénomène des changements climatiques. Et c'est ce que Vive Afrique tente de faire.
Merci infiniment, Mahamadou. Merci pour votre participation. Et j'invite bien sûr nos auditeurs à aller visiter ce site Vive Afrique, très intéressant, on parle de l'actualité sur les changements climatiques en Afrique. Bonjour à Aissatou Keïta qui est vice-présidente du club changement climatique de Ziguinchor. Aissatou, bonjour.
Bonjour mesdames.
Ziguinchor au Sénégal encore. Alors Aissatou, que fait le club changement climatique de Ziguinchor? Dites-nous en quelques mots finalement quels sont les enjeux écologiques dans cette zone du Sénégal.
Alors, merci beaucoup. Et nous sommes vraiment, le club est vraiment honoré de cette invitation pour parler un peu de nous.
Un plaisir, Aïssa Tou.
Juste pour vous dire que le club changement climatique de Djiguinchor, c'est 21 clubs qui ont été mis dans 21 villes du Sénégal. Donc, Djiguinchor en a profité par Action Solidaire Internationale. Donc, la mission qui nous est assignée, c'est de sensibiliser, conscientiser sur les enjeux des changements climatiques dans la région de Djiguinchor. Mais au-delà de cela, le club a jugé nécessaire d'associer à côté de ses activités de sensibilisation des activités de terrain telles que l'éducation environnementale dans les établissements scolaires, les activités de reboisement, que ce soit dans les forêts communautaires, le long des routes, au niveau de la mangrove, dans la lutte contre l'érosion, mais aussi dans les maisons, avec le concept d'une maison. Un arbre. Mm-hmm. Nous sommes aussi dans des activités d'investissement humain telles que le nettoyage depuis son installation.
Et comme on vient de le voir avec Abdou et le Quartier Vert Challenge, vous aussi vous êtes impliqué dans le maintien d'un cadre de vie propre et vert, c'est bien ça, Aïssa Tou?
Effectivement, on est dans ça parce que depuis que le club a été mis en place, on peut dire que nous avons décombré la ville de Djiguinchor, on a dû éliminer plus de 25 décharges sauvages. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec avec la mairie, que ce soit l'ICG qui est chargé de la coordination des décès.
Merci infiniment, Aïssa Tou. Merci à vous et bonne continuation, surtout pour ce club qui fait de très belles choses à Djiguinchor et un peu partout au Sénégal. Dernier auditeur du jour, Paul Sarah Ngué, qui est au Congo-Brazzaville, une coordinatrice du comité d'organisation de Couronne Verte. C'est un concours des ambassadeurs de l'écologie. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous misez sur un concours pour sensibiliser les jeunes. C'est votre défi. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Comment il se décortique?
Avec grand plaisir. En fait, comme vous l'avez dit, c'est sur les 17 objectifs de développement durable, 16 concernent l'écologie. Et donc la question de la protection de l'environnement devrait devenir une priorité pour la jeunesse du monde. Et donc la jeunesse congolaise n'est pas épargnée. Et donc, nous, dans ce sens, nous avons pensé mener cette campagne à couronne verte en prenant des lycéens, des collégiens et des étudiants, en les formant pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'écologie au Congo, pour militer pour le civisme écologique, mm-hmm. ainsi que pour la protection de l'environnement.
Et combien d'ambassadeurs et ambassadrices vont être élus?
Alors, actuellement, ils sont 65 en campagne, et la finalité, c'est pour avoir 20 ambassadeurs qui vont pouvoir mener des actions pendant une année sur l'étendue du territoire congolais. Il faut réconcilier les gens avec les bonnes habitudes de civisme environnemental, ça c'est très important. Et il faut aller au niveau des centres scolaires et au niveau des marchés et dans les entreprises ou encore pour les personnes, cette question de changement climatique ou des enjeux écologiques n'est pas vraiment quelque chose de prioritaire. Mmh. Et donc, les 20 ambassadeurs, pendant une année, vont mener des actions concrètes pour sensibiliser les gens dans ce sens. Et donc, à côté, effectivement, nous avons des activités de terrain. Donc, comme viennent de le dire les prédécesseurs, ça c'est la marche de tout le monde. Les activités de reboisement, les activités de recyclage d'objets. Et donc, c'est déjà la base. Et donc, c'est l'ensemble de ces activités-là qui vont être menées tout le mois de juillet. Et à l'issue des ateliers de gestion environnementale, des activités de recyclage, de planting d'arbres et même des plugging parts, c'est-à-dire des marchés écologiques où on va faire du ramassage d'objets et ensuite créer des bacs à ordures à pouvoir mettre dans les artères de la ville de Brazzaville parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'en acheter. Et donc à travers des bouteilles recyclées, nous ferons des bacs à ordures justement pour pouvoir avoir la possibilité de maintenant recycler de plus en plus des bouteilles et puis d'autres objets recyclables.
Merci Paul. Peut-être en deux secondes, dites-nous comment on participe à ce concours?
Alors, ça a été suite à l'appel à candidature, mais toutes les personnes qui souhaitent également se joindre à nous pour les activités dans le cadre de leur engagement éco-citoyen, ben, c'est simple de se joindre à nous via notre site internet Human and Press et la page Facebook Couronne Verte où nous diffusons toute l'actualité sur nos activités.
Merci infiniment, Paul. Merci à vous. Bonne continuation. J'espère qu'on aura le résultat de ces ambassadeurs et ambassadrices écologiques. Merci beaucoup.
Exactement. Merci à vous et à très bientôt.
Êtes-vous impliqué dans des initiatives pour protéger votre environnement? Que font les jeunes pour lutter contre les effets du changement climatique? Que font ceux qui ne sont pas intéressés par cette question? On en parle après. Bello Falcao, Dibango, Dibanga. Alors, on dit quoi sur RFI? Merci d'être avec nous. Alors, avant de clore cette émission, peut-être une question intéressante, parce qu'on a eu des messages d'auditeurs qui nous expliquaient qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par cette question de la protection de l'environnement. C'est un sujet intéressant pour certains, mais pas pour d'autres. Hindou, j'aimerais vous poser cette question, peut-être. Comment convaincre les réfractaires, selon vous, ceux qui ne sont pas encore dans ce combat et qui ne s'y intéressent pas? Que peut-on leur dire aujourd'hui?
Je pense que peut-être ils ne sont pas intéressés aujourd'hui, mais ils n'ont qu'à réfléchir à trois choses. L'eau que nous buvons ou nous dépendons, elle vient de la nature. La nourriture que nous mangeons tous les jours pour notre survie, elle vient de la nature. L'air que nous respirons pour vivre vient de la nature. Donc s'ils ne sont pas intéressés de cette question aujourd'hui, ils n'ont qu'à s'intéresser de ce qu'ils font tous les jours pour leur survie. Je pense que le problème environnemental, ce n'est pas un problème, une question de choix pour une génération ou pour une personne ou pour une communauté. C'est une question pour toute l'humanité et nous en dépendons et nous devrons tous se battre pour protéger cet environnement. Donc c'est une question pour le secteur privé, pour le gouvernement, pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes et pour tout le monde.
Un message important. Finalement, c'est une mission. C'est une mission, finalement, Hindou.
C'est une mission pour la planète, pour l'humanité. Parce que si on veut survivre, c'est ça aussi. Le changement climatique ne connaît pas les frontières. Donc, on peut avoir l'inondation ici qui peut affecter toutes les autres régions. Et j'ai entendu les frères qui parlaient des actions au-delà de son pays. Donc, le climat, c'est pareil. C'est une question de tout le monde et on doit s'engager tous ensemble pour les stopper et vivre bien. Et c'est ça aussi que j'ai entendu, la vie en harmonie avec la nature, dont on doit réintroduire.
Merci à vous, Hindou. Peut-être un mot de votre part, Sarah. Vous en croisez peut-être des gens qui vous disent que l'environnement, on s'en fiche finalement, on laisse les choses se faire et puis voilà, on croise les bras.
J'en croise beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que justement, aujourd'hui, les changements climatiques sont visibles et plus personne ne peut les nier. Mm-hmm. Mais aussi, on voit l'impact économique que ça a sur nos vies. Et si je prends un exemple, l'exemple par exemple de la pêche. Aujourd'hui, quand on voit la disparition, quand on parle de disparition de la biodiversité, par exemple, donc des poissons, mm-hmm. ça impacte directement le PIB. Absolument. De la pêche. Et pour la Tunisie, par exemple, ça impacte 20% du PIB. C'est énorme. Sur l'agriculture, c'est pareil. Et en fait, il faut prendre conscience que sans un environnement sain, on ne pourra plus vivre comme on vit aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est pas d'aller retourner vivre dans des cases et ne plus utiliser la voiture et vivre dans une sobriété très, très, très rude, mais d'adapter ses comportements et aussi de prendre conscience qu'on est 7 milliards d'humains sur la planète et que donc on doit partager cette planète.
Sarah, une dernière question. Vous avez un profil très intéressant, vous avez même deux profils, on va dire. Vous avez été sur le terrain et là, vous êtes au cœur des décisions avec votre engagement pour les Nations Unies. Peut-être quel bilan tirer de cette expérience? Quel réel impact vous voyez, vous?
Quand j'étais sur le terrain, je me rendais vraiment compte de l'importance d'agir et aussi de l'importance des modèles pour inspirer les autres à faire pareil. Mais je me suis ensuite rendu compte de la difficulté que c'était d'agir seul, sans le soutien d'un gouvernement, d'un État, d'institutions qui sont là pour ça. Et donc aujourd'hui, au sein des Nations Unies, j'utilise ma connaissance et mon expertise du terrain aussi pour conseiller les décideurs politiques et financiers.
Mais est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous avez le sentiment réellement, hein, Sarah, qu'il y a des choses qui avancent, que vous êtes entendue?
Je pense que oui, puisque en tout cas, au niveau de la Grande Muraille Verte, aujourd'hui, on a vu des changements depuis un an et demi.
Et ça prend du temps.
Mais ça prend du temps. Et c'est essentiel que tous les jeunes qui s'engagent sur le terrain prennent attache, contact avec les institutions locales, nationales, qu'ils fassent entendre leur voix. Parce que leur expérience est importante. Et surtout, elle est aussi une opportunité pour ces pays d'aller chercher des financements. Parce que parfois, ces pays, ces gouvernements, ces personnes de l'administration qui ne sont pas forcément sur le terrain, n'ont pas forcément les idées des projets à faire remonter. Et c'est là tout l'enjeu de collaborer avec ces institutions pour aussi avoir accès aux opportunités.
Merci infiniment, Sarah. Peut-être le mot de la fin pour vous, Hindou. Quel message on doit faire passer impérativement à tous nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent?
Le message est que nous n'avons pas le temps. Nous sommes dans une urgence et une crise climatique et environnementale autour du monde. Donc, on a besoin des actions de tout le monde. On peut être dans la ville ou on peut être dans le monde rural. Les actions sont là. En ville, on peut choisir ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, comment on utilise et réutilise les ressources pour les recycler. Et dans les communautés, on peut utiliser les savoirs traditionnels pour fertiliser les terres, mais pas des certificats. On peut planter des arbres, mais on peut aussi protéger les forêts qui sont là pour ne pas les détruire et restaurer la terre. Donc, on a des actions, on a des places et on doit tous être en action et mettre là.
Merci infiniment, Hindou. Merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle que vous êtes géographe, militante autochtone de la communauté Mbororo pour le climat et coordinatrice de l'AFPAD. C'est l'association des femmes peulées autochtones du Tchad. Et merci infiniment à vous également, hein, Sarah Toumi. Vous êtes responsable de programme au sein de la Convention des Nations Unies contre la désertification et fondatrice de Acacia for All.
Merci beaucoup.
C'est la fin de Alors on dit quoi? Merci de nous avoir suivis. Restez sur RFI pour la suite des programmes. Merci également à toute l'équipe de l'émission, Guillaume, Beverly, Daba, Mariam, ainsi qu'Oumi et Mélanie. Ablaïgaï, bonjour. Oumnon, Ragongol, à bientôt.